De nombreux couples vont mal, et notamment ne parviennent pas à tenir dans la durée. On dénombre aujourd'hui près de 425 000 séparations par an.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Cette instabilité des couples dans le temps est sans doute, nous l'avons déjà vu, l'une des raisons, même si ce n'est pas la seule, de la chute de la démographie. Car il faut nécessairement un couple qui vit dans la confiance et dans la confiance en l'avenir du couple pour se décider à avoir un ou plusieurs enfants. L'État s'inquiète de la chute de la démographie qui aura des conséquences économiques très importantes. Et il s'aperçoit aussi que ces séparations de couple finissent par lui coûter très cher. L'État a donc tout intérêt, plutôt que d'accompagner les séparations, voire presque de les encourager, à mettre en œuvre des aides, des actions qui, au contraire, pourraient stabiliser les couples et diminuer le nombre de séparations. Sauver les couples devient donc une priorité pour la plupart des pays occidentaux. Une récente étude inédite démontre l'impact du conseil conjugal et familial sur la trajectoire des couples. Cette enquête a été menée auprès de 254 couples. On s'aperçoit que 73% des séparations qui étaient envisagées ont été évitées grâce à un accompagnement conjugal. Sur 101 couples qui ont consulté avec l'intention de se séparer, 74 ont finalement décidé de rester en couple. Les autres bénéfices du conseil conjugal se mesurent également par une amélioration de la qualité de la relation dans 73% des cas. Cette étude montre donc combien la politique familiale a tout intérêt pour le bonheur privé comme pour l'économie publique à soutenir des dispositifs promouvant la stabilité conjugale. Un autre élément intéressant fourni par l'étude, c'est celui du constat d'un recours relativement tardif des couples au conseil conjugal. Près de la moitié des couples déclarent que les motifs les ayant amenés à recourir à ce conseil étaient présents depuis plus de 2 ans. La démarche d'accompagnement se fait tardivement lorsque les couples pensent avoir épuisé toutes les ressources internes pour parvenir à résoudre leurs conflits, notent les auteurs de l'enquête. On pourrait donc espérer de bien meilleurs résultats si l'accompagnement conjugal était mieux connu et mieux promotionné. En France, 380 000 enfants sont touchés chaque année par la séparation de leurs parents. Ils n'étaient que 145 000 en 1993, selon l'INSEE. Or, les ruptures et conflits entre parents ont un impact lourd sur les enfants. Effet négatif sur le lien parent-enfant. Un quart des enfants mineurs sont privés ainsi d'un de leurs parents 100% du temps. Il y a également des risques de violence intrafamiliale, des impacts négatifs sur le parcours scolaire. L'étude à laquelle nous nous référons dévoile que les enfants vivant dans une famille monoparentale redoublent davantage en primaire que ceux qui vivent avec leurs deux parents. En outre, les séparations conjugales ont aussi des répercussions sur le niveau de vie. Un tiers des foyers monoparentaux vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, cette même étude met en relief les coûts publics des ruptures privées sur le registre des finances publiques. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochains rendez-vous. Puisque les conflits conjugaux et les ruptures ont un coût social, humain et éducatif lourd, peut-on les prévenir et limiter leur impact négatif sur l'enfant et ses parents? Aujourd'hui, la politique familiale accompagne les parents, elle s'investit dans l'accompagnement des séparations, notamment en soutenant la médiation familiale. Cependant, estime Julien Damon, sociologue, enseignant à Sciences Po, Du point de vue stratégique, elle devrait se tourner vers la stabilité des unions. Il y a là un thème majeur. Évidemment, dit-il, les séparations méritent d'être accompagnées. Évidemment, elles ne sauraient être interdites ou limitées, mais elles se préviennent. Et c'est tout le rôle du conseil conjugal et familial. Certains pays ont déjà mis en place des dispositifs, c'est le cas du Danemark par exemple, où la grande majorité des communes s'implique dans les politiques de soutien à la conjugalité en offrant par exemple des séances de thérapie de couple gratuites. Parmi les conséquences des séparations de couple, nous avons évoqué le volet des conséquences financières. Conséquences pour les couples eux-mêmes, car on vivait dans un appartement, si l'on se sépare, il va falloir que chacun ait un appartement. Que dire de tout ce qui représente l'aménagement de ces appartements, et puis le problème des véhicules. Mais au-delà de ces conséquences financières pour le couple lui-même, nous avons évoqué les conséquences pour les finances publiques, car de fait, on s'aperçoit que les séparations de couple coûtent très cher à l'État. Pour en savoir plus, nous nous tournerons vers une étude menée par l'économiste Marc de Basquiat et le démographe Julien Damon. Elle révèle qu'en France, l'État compense en grande partie le coût des séparations ou des divorces, à travers le RSA, les APL ou l'ASF, allocation de soutien familial. Des aides sociales qui sont versées pour rééquilibrer une perte ou une absence de revenus après une séparation conjugale. Sans compter les pertes pour les finances publiques liées à la modification du calcul de l'impôt sur le revenu. Le coût global est estimé à une dizaine de milliards d'euros par an. Un coût qui n'existerait pas si les couples ne se séparaient pas. Les auteurs de l'étude se posent la question : est-il légitime que l'État compense aussi fortement les séparations au risque de créer une sorte d'incitation financière à la séparation ? Il en résulte que sur une année, l'impact d'une séparation sur les finances publiques est d'environ 4200 euros. Avec près de 425 000 séparations par an, l'impact total est d'environ 1,8 milliard d'euros. Mais les conséquences d'une séparation durent plusieurs années. Elles ont été estimées à 6 années. Par conséquent, le coût total des séparations approche annuellement les 11 milliards d'euros. L'étude révèle que ces dispositifs, qui peuvent paraître positifs, ont en réalité un effet pervers, et que le système est bien plus généreux pour les personnes seules que pour les couples. L'État aurait bien plus d'intérêt à aider les couples à ne pas se séparer plutôt qu'à payer la facture des séparations. Parmi les 425 000 séparations de couples chaque année en France, il y a forcément dans ces couples des couples chrétiens, des couples qui ont fait la démarche de se marier à l'Église. C'est dire que le mariage à l'Église n'est pas une recette pour que le couple tienne. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la grâce. Et dans le domaine de la grâce, il n'y a pas de recette. Nous n'allons pas chercher une grâce particulière pour obtenir tel ou tel résultat. Une grâce reçue, pour qu'elle soit efficace, doit être mise en œuvre concrètement, à travers des attitudes. Quelles peuvent être ces œuvres à l'intérieur d'un couple ? Il y a certainement tout d'abord des attitudes fondamentales à choisir et à maintenir. Le respect de l'autre, la bienveillance vis-à-vis de l'autre, qui consiste à voir toujours le bien chez l'autre plutôt que le mal, que ce qui ne va pas, que ce qui est fait de travers. Il y a aussi sans doute à mettre en œuvre quotidiennement une certaine tendresse. Et puis, peut-être, y a-t-il aussi des démarches évangéliques à mettre en place à l'intérieur du couple, telles que une écoute mutuelle, une véritable écoute, pas celle qui cherche à avoir toujours raison, mais celle qui cherche à comprendre l'autre, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il y a certainement à mettre en place un vrai partage. Soit il va se faire spontanément, mais s'il ne se fait pas spontanément, il faudrait le mettre en place de manière presque systématique. Avoir, dans la semaine, un temps de partage. Autre attitude sans doute nécessaire, entrer dans la transparence, c'est-à-dire ne rien cacher, ne rien camoufler, être vrai, finalement. Quitte à ce que cela demande un certain nombre de partages et peut-être même d'aménagements dans le style de vie que nous avons ensemble. Une autre valeur évangélique qui sans doute est fondamentale dans un couple chrétien, c'est le pardon mutuel. C'est-à-dire vraiment pouvoir faire avec le conjoint cette démarche profonde, vraie, humble, de se reconnaître pauvre, petit et faible, et d'attendre de l'autre son pardon, c'est-à-dire finalement son amour, afin que l'un et l'autre grandissent en s'appuyant sur l'autre, en recevant de l'autre, et ce faisant, permettent à une vraie communion spirituelle de se développer et de s'épanouir. Cette communion tirera tout bénéfice d'une prière en couple où chacun se remet avec l'autre devant le Seigneur.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.